La radio adventiste Béthanie de Bétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit.
Nous sommes heureux ce matin, alors que le Seigneur nous convie à le rencontrer, à proclamer sa parole et à avoir ce temps de réflexion, alors que nous attendons les grâces du Seigneur. Nous pouvons avoir l'assurance que de son côté, il est prêt à déverser aujourd'hui sur nous les riches bénédictions qu'il a en réserve pour ses enfants, pour son peuple. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis, chers et frères bien-aimés. Nous avons le privilège de pouvoir être en présence de Dieu en ce sabbat. C'est un appel, c'est une invitation, c'est une sainte convocation. Notre réflexion en ce matin aura pour titre « Nous sommes des enfants de Dieu ». Nous lirons la parole de l'Éternel dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, les versets 9 à 13. C'est une parole que nous connaissons tous et nous allons la prier, la dire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Chers amis, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers et frères bien-aimés, les versets que nous venons de lire s'inscrivent globalement sous le titre « Oraison dominicale », qui voudrait dire « la prière du maître ou encore la prière enseignée par le maître si nous considérons l'étymologie des mots oraison et dominical. Depuis l'énoncé de cette parole, il a constitué à travers l'ère chrétienne la prière universelle des chrétiens. Cet enseignement à prier de Jésus à ses disciples est rapporté par Matthieu et Luc. Dans le monde chrétien, cette prière est dite pratiquement tous les jours. Elle est donc devenue la prière la plus populaire de tous les temps. Elle est populaire et en la récitant, il est possible que vous et moi ne fassions pas attention au sens profond de chaque mot. Il nous arrive de la dire sans prendre conscience de la doctrine qui s'y dégage. En la disséquant, nous y trouvons deux grandes parties et j'aimerais que vous suivez avec moi, avec attention, vous qui m'écoutez de partout. Premièrement, la reconnaissance de l'appartenance filiale de l'adorateur à son Dieu. Deuxièmement, la relation devant prédominer entre adorateurs. Pour l'une ou l'autre des parties, il est important de se rappeler que c'est Jésus lui-même qui a enseigné cette prière. Et dans les différentes parties, nous verrons qu'il y a des subdivisions sur lesquelles nous pourrons réfléchir. D'abord, la reconnaissance de l'appartenance filiale de l'adorateur à son Dieu. Jésus confirme qu'il est lui-même fils de Dieu en débutant par notre Père. Le Fils de Dieu nous invite à comprendre tout d'abord, à réaliser la magnificence de Dieu, car il est dans les cieux, mais Jésus nous demande de constater également que Dieu n'est pas si loin. Il est tout près de nous en la personne d'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est parmi nous, la parole incarnée. Car il est dit dans Jean 1er, les versets 1 à 3, Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons constaté sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, selon Jean 1er, selon Jean, versets 1er à 14. Bien que la passion de Jésus eût été annoncée depuis la chute en Éden, les Saintes Écritures nous révèlent que malgré les diverses interventions de Dieu en faveur de l'humanité, il y a toujours eu des incrédules qui négligent de considérer le Créateur comme étant le Père de l'humanité. Les textes sacrés nous démontrent également que Jésus a réconcilié avec le Père les enfants prodiges que nous étions en acceptant de prendre notre place jusqu'à la mort de la croix pour faire de nous des enfants de Dieu que nous pouvons désormais appeler Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, selon Jean 3, verset 16. Et Paul, dans son épître aux Galates, ajoute « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates 4, versets 1 à 7. Nous ne pouvons alors que glorifier son nom et vivre chaque respiration, chaque mouvement de souffle dans l'attente de son avènement. En acceptant cette rédemption, nous reconnaissons que ce Dieu est créateur, mais aussi pourvoyeur, et Jésus nous amène à lui demander tout ce dont nous avons besoin. La deuxième partie, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dans notre relation avec Dieu, il nous prescrit au quatrième commandement de travailler avant de nous reposer. La demande du pain quotidien à Dieu, c'est la matérialisation de l'intelligence et des talents que Dieu nous accorde pour nous permettre de subvenir à nos besoins dans l'honnêteté et la dignité. Les Israélites, certes, ont reçu la manne dans le désert pendant 40 ans, mais leur travail consistait à traverser cette région aride pour aller conquérir les nations à la seule gloire de Dieu. Depuis la fondation du monde, Dieu a tout mis en œuvre afin de nous donner, Il a préparé d'avance notre arrivée sur cette terre, tout comme il en donne l'exemple par une femme qui prépare l'accouchement de son enfant dès la conception. En 6 jours, le Créateur a organisé par sa sagesse manifestée par sa parole le champ devant accueillir ce qui serait le summum de son œuvre, la touche finale de sa perfection, l'être le seul qui l'amène à l'existence par sa décision, sa parole, ses mains, mais aussi son souffle. Ce faisant, Dieu s'est assuré qu'il a donné à l'homme sa propre image et sa ressemblance. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Genèse 1, verset 26a. En d'autres termes, Dieu dit, « donnons à l'homme notre ressemblance et qu'il reflète notre image. » C'est l'architecte qui met en action immédiate sa pensée, moulant la poussière de cette terre qu'il a préparée spécialement, en donne la forme qui s'harmonise à sa perception, mais aussi ajoute ce qu'aucun sculpteur ne saura jamais réaliser, le don de la vie. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. C'est intéressant de comprendre, frères et sœurs bien-aimés, notre respiration correspond au souffle de vie en nous. Ainsi donc, Dieu fait de nous d'heureux récipiendaires du don de la vie. Et en enseignant le Notre Père, Jésus confirme que par lui, notre relation filiale avec le Père est rétablie, car il n'a pas cessé d'être notre pourvoyeur malgré nos écarts. Nous avons donc une grande assurance que c'est Dieu seul qui donne la vie et que ce même Dieu est notre Père. Nous avons précédemment vu que notre foi, actionnée par Dieu lui-même, est le catalyseur de ce que Dieu a déjà en provision pour nous donner. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, selon Lamentations 3, les versets 22 et 23. L'une des illustrations qui démontre l'abondance des bénédictions de l'Éternel à l'endroit de ses enfants est celle de la veuve endettée, histoire que nous trouvons dans 2 Rois 4, les versets 1 à 7. Son mari venait de mourir et l'avait laissée avec des dettes pour lesquelles le créancier la pressurait pour éviter d'appliquer la loi de l'époque à ce sujet. Faute d'honorer ses dettes, le créancier prendrait ses enfants pour en faire ses esclaves. Elle n'avait aucun recours. Mais le texte nous dit qu'elle cria à Élisée le prophète. Et je crois comprendre ici, par la teneur du texte, que le prophète représente Dieu. Élisée me paraît calme, rempli de sagesse, pour demander à cette pauvre veuve, « Pourquoi tant d'angoisse, mon enfant? Il y a, si tu veux, une solution à ton problème. Qu'as-tu à la maison ?» C'est comme Jésus qui dit à l'aveugle, « Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse ?» Comme l'a si bien exprimé samedi dernier notre frère, le pasteur Ernst Prince, dans sa prédication. À la réponse de la veuve, Élisée lui propose une formule et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, nous sommes en présence ici d'un problème, d'une difficulté, d'un obstacle, d'un fléau. Et Dieu met en branle ce que nous vivons, le confinement. Dieu dit à la veuve, rentre chez toi, ferme ta porte sur toi, et sur tes enfants. Rencontre-moi dans ta maison. C'est le test de la foi. Elle a franchi deux premières étapes à cette épreuve. La première, dans son infortune, elle cria à Dieu. Or, l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants qui crient à lui. La deuxième étape, elle exécuta à la lettre la prescription faite par Dieu. Mais ce n'était pas seulement les vases qu'elle allait demander qui devraient être vides. Elle devait se vider elle aussi, car elle était femme d'un fils de prophète. Elle avait un rang social, mais elle devait se défaire de tout cela, s'en dépouiller, mettre tout de côté pour mettre à profit la parole de Dieu. En cette période où nous connaissons des restrictions, nous devons en profiter pour mettre tout de côté, nous dépouiller et nous approcher de notre Dieu. Avec la foi vient aussi l'humilité qui s'associe pour donner aux croyants le courage et la détermination d'affronter les difficultés avec dignité et la ferme assurance de l'accompagnement céleste. L'huile qu'elle avait à la maison symbolise le Saint-Esprit qui se déverse sur nous, nous arrose de bénédictions tant que nous nous vidons. Les bénédictions de l'Éternel ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. C'est nous qui mettons fin, mes amis, à la pluie de bénédictions que Dieu veut déverser sur nous. Soyons des vases vides en présence de Dieu et qu'il nous remplisse lui-même de ses grâces qui ne s'épuisent jamais, quel que soit le temps, quelle que soit la période, quelle que soit l'époque, quelles que soient les difficultés, nous avons encore Dieu. Et nous avons toujours Dieu à notre disposition, si nous le voulons bien. Une troisième partie de cette réflexion serait la relation devant prédominer entre adorateurs. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Jésus nous invite ici à plaider avec le Père de notre attitude envers nos semblables. Nous disons bien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce qui implique que le pardon de Dieu est prêt, que Dieu est prêt à m'accorder, ce pardon est conditionné. Il est conditionné par la miséricorde que j'exerce envers mon prochain. Et pour illustrer cela, Jésus raconte la parabole du serviteur impitoyable, dans le même chapitre à partir du verset 23, verset 18, chapitre 18, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra au bureau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, dit Jésus, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Enfin, la dernière partie, la dépendance de l'adorateur à son Dieu et le renouvellement de sa certitude en sa toute-puissance et sa domination. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Arrivé à ce point, le croyant s'abandonne complètement à son Créateur en toute confiance, sachant que lui seul a la clé de son salut. En résumé, cette prière est profonde et puissante, car elle rappelle le décalogue et la synthèse faite par Jésus. La première partie correspond au bloc des quatre premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. La deuxième partie correspond au bloc des six derniers commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une prière d'amour qui nous connecte intimement avec Dieu, précisant notre affiliation avec notre Seigneur, tout en nous rappelant nos devoirs envers nos prochains. La pensée de Jésus, nous dit l'auteur de la méditation de cette année, était organisée sur la loi de l'amour, ainsi comme le décalogue se divise en deux parties. Le Notre Père exprime la verticalité et l'horizontalité de l'âme humaine. Dieu et le prochain. D'abord Dieu, son nom, son règne, sa volonté. Ces trois demandes furent entendues à la croix du calvaire et étaient orientées vers l'accomplissement final du plan du salut. Puis vient l'être humain, vous et moi. Les quatre dernières requêtes offrent nos misères à sa grâce infinie. Le Notre Père souligne ce besoin qui est dans notre cœur. C'est la prière du Fils qui cherche la protection et l'amour divin. Notre Père céleste a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent. Ses regards sondent les êtres humains. Psaume 11, verset 4. En ces temps de turbulence, mes amis, frères et sœurs bien-aimés, prenez courage, soyez forts, faites confiance à votre Dieu. Le Seigneur est attentif aux vœux et aux besoins de votre cœur. Il veut être votre origine et votre destination. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis, chers et frères bien-aimés. Dieu vous bénisse. Bon sabbat.